Nombril de Vénus, émission curieuse pour Radio Curieuse.
Bonjour, c'est Juliana pour une heure d'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Canal B. Et pour l'émission de ce dimanche, je vous propose un entretien avec l'écrivaine Delphine de Vigan. Bonjour Delphine.
Bonjour Juliana.
Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer, une femme, généreusement comme ça, une interview pour Canal B.
Eh bien, j'en suis ravie aussi.
Vous avez eu beaucoup de prix, mais d'après une histoire vraie, a quand même reçu le prix Renaudot, puis le Goncourt des lycéens. Qu'est-ce que ça vous fait d'arriver à ce summum, en fait, autant qu'écrivaine?
Bon, je ne sais pas si c'est un summum, j'ai le sentiment d'une trajectoire en tout cas. En plus, il se trouve que je suis quand même une écrivaine qui change pas mal de registres à chacun de mes romans. À chaque fois, c'est une exploration un peu nouvelle, d'un territoire un petit peu nouveau. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître des grands succès publics et critiques avec Rien ne se pose à la nuit, avec D'après une histoire vraie, avec Noé Moi, avec d'autres de mes livres qui ont été qui ont eu la chance de rencontrer les lecteurs. Donc c'est un plaisir, bien sûr. Et les prix littéraires, on n'écrit pas pour ça, parce qu'au fond, quand on écrit, on pense pas du tout au prix qu'on pourrait recevoir. Mais je dois dire que ça fait plaisir et que c'est une forme de reconnaissance malgré tout à laquelle je suis sensible.
À quoi pensez-vous lorsque vous écrivez?
Écoutez, ça dépend un petit peu des livres. À quoi je pense? Je pense à essayer à écrire le mieux possible. C'est avant tout une préoccupation formelle, je dirais, au moment de l'écriture. Tout ce qui précède en amont, moi je travaille beaucoup en amont, je prépare beaucoup mes romans d'une certaine manière avant de les écrire. Il y a une période un peu d'incubation, de préparation, souvent de documentation. C'est ce temps où j'imagine le roman, je prends des notes et je commence à avoir une idée, enfin souvent assez précise d'ailleurs, des personnages, de la manière dont ils vont évoluer. Et puis ensuite vient le moment de l'écriture à proprement parler. Je dirais que oui, ma préoccupation, elle est essentiellement de forme, c'est-à-dire trouver le moyen de donner forme à ce que j'ai imaginé. C'est souvent quand même la partie la plus difficile.
Vous parlez un petit peu comme si vous écrivez une partition, comme si c'était comme une musique en fait. Parce que c'est un moment d'incubation et après il y a la création, c'est presque une formalité alors.
Non, c'est pas du tout une formalité parce que c'est vraiment la partie la plus difficile en fait. C'est cette mise en forme de quelque chose que j'ai rêver, fantasmer, imaginer. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, cette mise en forme, elle n'est jamais à la hauteur de ce que j'ai imaginé et ce dont j'ai rêvé. Il y a toujours une déception au moment de fabriquer finalement le livre, avec le sentiment de ne pas forcément être à la hauteur de mes ambitions. Donc je dirais pas non que c'est une formalité, mais c'est en tout cas l'aboutissement de souvent effectivement d'un moment de préparation, mais qui demande beaucoup de travail. Alors ça a sans doute quelque chose à voir avec la musique, dans le sens où, pour ma part, je me relis beaucoup à voix haute, j'accorde beaucoup d'importance à la sonorité, au rythme des phrases. Donc il y a comme ça quelque chose qui est mis à l'épreuve à travers l'oralité, en tout cas.
Eh bien, dans un livre aussi particulier que celui, le dernier que vous avez créé, Les enfants sont rois, la musique, elle n'est pas forcément très tendre. On est dans le rock là, non ?
Oui, c'est vrai. Ou alors ce serait une petite musique très agaçante, une musique un publicitaire ou un on peut, si je devais le comparer, effectivement je verrais assez bien des jingles ou des jingles publicitaires à la fois très entêtants et très énervants.
Oui, c'est vrai que le rock c'est quand même très chouette, oui, on va pas dire beau. Ça comme ça. Là, on est dans la vie de deux femmes, finalement, Mélanie et Clara, qui tout opposent. Et on va découvrir un petit peu comment leur parcours, à un moment donné, se croisait, notamment autour d'une histoire plutôt sordide, on va dire, hein, qui ne se termine pas forcément, on ne sait pas. Hein, on découvre dans le livre, bien entendu, on ne va pas tout dévoiler non plus. Il faut quand même que les auditeurs de Canal B puissent lire le livre. Néanmoins, Mélanie est une maman très particulière. Peut-être parce qu'elle avait ses propres souhaits personnels à un moment donné de réussite et de succès, peut-être aussi parce que c'était une façon de venger sa condition de vie lorsqu'elle était elle-même plus enfant, adolescente, etc. Eh bien, elle pousse ses enfants au devant des caméras au travers de la chaîne YouTube qu'elle a créée qui s'appelle Happy Récré. J'ai bien raconté là, non ?
Très bien, oui, c'est un bon résumé, effectivement. C'est une Mélanie, on peut dire que c'est une femme qui appartient complètement à son époque, qui épouse totalement son époque, d'ailleurs sans recul, parfois sans discernement, sans remettre vraiment les choses en question. Alors elle a rêvé, jeune fille, de célébrité, de gloire. Elle a vu le loft quand elle avait 17 ans. Elle a voulu en fait faire partie de ces gens qui tout d'un coup se trouvent dans la lumière. C'est une femme qui cherche la lumière, voilà. Elle est fascinée par la télé-réalité. Elle tente elle-même, avec plus ou moins de bonheur, de participer à une émission. Et puis le temps passe, elle devient maman. Et au fond, tous ces rêves un peu enfouis qui sans doute ont généré malgré tout de la frustration peuvent un jour se réaliser à travers ses enfants. C'est-à-dire qu'elle elle commence à mettre en scène ses enfants sur YouTube dans des vidéos, des petites vidéos, et ces vidéos rencontrent un grand succès. Et puis elle apparaît elle-même dans les vidéos, et puis elle-même devient finalement très connue. Tout repose bien sûr sur ses enfants, mais en tout cas cette quête de reconnaissance, d'amour, de notoriété qui était la sienne, trouve à un moment donné le succès, en tout cas la récompense, voilà, c'est plutôt ça d'ailleurs, la récompense lorsqu'elle est mère.
Et de l'argent, parce qu'effectivement elle embarque aussi son mari dans cette histoire qui est, on va dire, très enthousiaste par le projet et qui cautionne complètement ce qui est en train de se passer au sein de sa famille. Il gagne beaucoup d'argent finalement.
Oui, au départ, je ne pense pas qu'elle le fasse pour l'argent. L'argent, on ne sait pas d'ailleurs, peut-être qu'il y a aussi, ça fait partie du rêve, mais en tout cas, l'argent intervient un peu plus tard. Et en effet, il s'agit de sommes très très importantes. Donc, comme souvent dans ces cas-là, les deux parents arrêtent de travailler. Son mari, elle arrête de travailler, son mari arrête de travailler, et la famille entière vit sur ses vidéos et sur ses revenus. Ce qui est une donnée évidemment importante pour les enfants.
Ils reçoivent énormément de cadeaux. Implicitement, vous êtes en train de nous pousser jusqu'à... on est tellement dérangés, mais jusqu'à un malaise total face à la société de consommation.
C'est vraiment la société de consommation dans ce qu'elle a de plus... débridé, je dirais, sans aucune limite, qui s'exprime à travers ces vidéos, en tout cas dans ce qu'elle a de moins régulé, de moins encadré, parce que YouTube, de ce point de vue-là, est quand même une sorte de Far West où il n'y a absolument aucune... dans lequel il n'y a aucune régulation. Donc oui, effectivement, ces vidéos font l'apologie de la consommation. Au fond, ce que ça raconte, ces petites vidéos, c'est que acheter, consommer, c'est être heureux, et par conséquent que pour être heureux il faut consommer, et voilà. Donc ça pose question évidemment pour les enfants qui participent, mais aussi pour les enfants qui regardent.
On a le sentiment que vous nous racontez vraiment les côtés les plus pourris de Mélanie dans ce livre, pour autant qu'il y a une énorme affection. Vous avez une énorme affection pour votre personnage.
Oui, en tout cas, j'ai une affection certaine pour elle, mais parce qu'elle m'intéresse, parce qu'elle m'intrigue. Je ne voulais pas que le livre soit seulement un manifeste ou un texte à charge ou un texte de dénonciation. Je vois bien que pour certains, il joue ce rôle-là un peu d'alerte ou d'avertissement. Mais mon idée, c'était vraiment de tenter d'entrer, de pénétrer dans un monde monde que je ne connaissais pas, que j'ai découvert tout à fait par hasard, de tenter de le comprendre et d'essayer d'imaginer la trajectoire d'une femme qui en vient justement à exposer à ce point ses enfants, à s'exposer elle-même à ce point. Je voulais comprendre quelle trajectoire intime, familiale, sociale, parce qu'au fond c'est la rencontre de tout ça. Vous évoquiez son histoire à elle, son passé, son enfance, qu'on découvre bien sûr dans le roman, et tout ça peut expliquer un peu en partie les choses. Et puis il y a aussi l'époque.
C'est flippant.
Oui. Oui, oui, c'est très flippant, je vous le concède. Enfin, en tout cas, personnellement, ça, il y a des gens qui trouvent ça tout à fait normal. Je pense sincèrement qu'à la lecture du roman, c'est-à-dire le roman, il incite finalement le lecteur à imaginer, à se représenter l'envers du décor. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit ces vidéos sans se poser de questions, et probablement que, voilà, que c'est le cas, il y a des gens pour qui c'est le cas, ceci étant, et ce sont surtout les enfants qui regardent, hein, qui sont quand même des cibles à la fois très faciles, et voilà, qui n'ont évidemment pas un esprit critique très développé quand on a 3 ou 4 ans, et qu'on regarde en boucle ces vidéos, et forcément qu'on est complètement influencé par elles, et c'est bien le but, hein, de faire en sorte que les enfants veuillent acheter les produits qui sont mentionnés. Mais disons, pour des spectateurs un peu plus âgés, un peu plus adultes, oui, probablement qu'on ne voit pas forcément le mal au départ. Et d'ailleurs, au début, moi, je dois dire que bon, je me disais, bon, c'est un peu bête, mais enfin, c'est pas bien méchant. Mais quand on en regarde davantage, quand on c'est la répétition, on commence à les analyser, qu'on commence à réfléchir aussi à ce que ça véhicule comme valeur, comme je le disais tout à l'heure, là, on commence vraiment à se poser des questions. Et oui, il y a un effet, il y a de rejet. C'est difficile, si vous voulez, après, quand on imagine ce que doit être la vie de ces enfants, qui sont à la fois, donc, qui accèdent très jeunes à une notoriété absolument phénoménale. C'est-à-dire que pour certains de ces enfants, ils ne peuvent pas sortir dans la rue sans provoquer une émeute. Nous, on ne les connaît pas. C'est ça qui est étonnant, c'est que les gens qui voilà, les enfants et les adolescents les connaissent très bien. Et croyez-moi que si vous les emmenez dans un centre commercial à Rennes, ils seront très vite reconnus et provoqueront un attroupement phénoménal. Donc connaître cette notoriété-là quand on est enfant, on sait bien que ça n'est pas sans incidence. On l'a vu avec d'autres enfants, acteurs, mannequins, dans d'autres domaines. Et puis là, ça n'est pas quelque chose qui est tellement circonstancié dans le temps, parce que vous ça n'est pas voilà, ça ne s'agit pas de tourner un film ou de chanter une chanson. Il s'agit de mettre en scène ce qui ressemble à la vie. Bien sûr, ça n'est pas tout à fait la vie non plus, mais en tout cas de tourner tous les jours, d'être au travail tous les jours. En fait, ces enfants travaillent, c'est une forme de travail, c'est une forme d'aliénation, c'est une forme d'exploitation. Et quand on commence à réaliser le nombre d'heures, par exemple, que ça représente pour des enfants, les privant vraisemblablement de tout loisir autre que celui-là. C'est-à-dire que oui, je pense qu'ils vont à l'école et que manifestement beaucoup de ses parents sont quand même assez vigilants sur le travail scolaire, mais à part le reste du temps, ils tournent des vidéos. Donc la relation avec leur père PAIR, avec c'est très difficile sans doute de créer des liens d'amitié, de mener une existence normale.
Regarde. Nulle part, puis c'est tout. Oh, regarde, quoi, y'a rien, si, ou ça, là, tu crois, oui, alors, quoi, tu viens, moi, ou ça, là, c'est loin, oui, par là, oui, si loin, oui, c'est fou. Tu tiens, oui, lâche pas, non, ça va, oui, attends, quoi, regarde, quoi, là-bas, où, par là, oui, c'est beau, oui, tu viens, oui, où ça, là, suis-moi, oui, ça va, oui, tu vois. Ça. Qu'est-ce qui nous arrive? la dérive. Le monde est à nous. Tu dors, hein? Tu dors, oui, t'es sûr?
Un petit peu de Clara, qui est l'autre protagoniste, qui elle, alors je vais juste dire un mot, votre livre est quand même un polar. Clara, elle, elle est policière. Ce qui va faire que ces deux femmes, à un moment donné, vont se croiser, c'est que justement, il arrive quelque chose. La petite fille qui a 7 ans, Kimi, c'est le début du livre, hein, tout simplement. Clara, vous l'avez imaginé pour contrecarrer la performance, si j'ose dire, du personnage de Mélanie.
Je les ai imaginés en tout cas comme le positif et le négatif d'une même, d'un même moment, d'une même époque. Je le dis, le positif et le négatif au sens photographique du terme, parce que sans jugement forcément de valeur, mais c'est vrai qu'elles sont à l'opposé l'une de l'autre. Ça m'a amusé d'ailleurs finalement de construire ce personnage de Clara à l'inverse de celui de Mélanie. Mélanie, je disais, c'est à l'instant, c'est une femme qui cherche la lumière, qui... épouse totalement son époque, là où à l'inverse, Clara non seulement est plutôt une femme de l'ombre, de par son métier déjà, mais aussi par son caractère, par son tempérament, mais en outre, se trouve finalement un peu en marge de sa propre époque. C'est quelque chose qu'elle ressent elle-même assez profondément, ce sentiment d'être au seuil, de ne pas entrer totalement dans son époque, ce qui est lié à la fois, pour elle aussi d'ailleurs, à son caractère, à son tempérament, j'ai envie de vous dire, à son histoire familiale, à son éducation, mais voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt en retrait, qui reste plutôt à la marge des choses, et peut-être d'ailleurs à la marge de sa propre vie, mais là où Mélanie est quelqu'un qui, à l'inverse, s'engage, fonce, parfois sans réfléchir.
Mais elles ont quand même un point commun, ces deux personnages, c'est la solitude.
Oui, c'est vrai, c'est juste. Elles sont toutes les deux dans une forme de solitude. Alors, pour Clara, c'est une solitude qui est assez évidente, puisqu'elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle vit seule, elle est flic. Donc, elle le dit elle-même. Elle a le sentiment d'être un peu le cliché du flic solitaire qui rentre chez lui devant sa salade sous cellophane. Tandis que Mélanie, c'est une autre forme de solitude. C'est une solitude d'une femme qui pourtant a un mari, des enfants, etc. Mais qui, à certains moments, en tout cas à un certain moment de sa vie, très clairement s'est ennuyée et n'a pas réalisé ses rêves, en fait.
Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous voués à réaliser nos rêves non plus. Hein. C'est quelque chose qui, hélas ou pas, d'ailleurs, est une grande réalité. Est-ce que vous êtes en train de réaliser vos rêves?
Je ne sais pas, en fait... Je peux dire que certains de mes rêves ont été réalisés, pas tous évidemment, comme tout le monde, mais d'autres choses me sont arrivées que je n'avais pas rêvées et qui sont merveilleuses et qui finalement me comblent. Bien sûr qu'on ne réalise pas tous nos rêves, heureusement d'ailleurs, sans doute qu'il faut se laisser surprendre par la vie. Mais pour Mélanie, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une forme de... Oui, de frustration, malgré tout, de quelque chose qui a été, sur lequel elle, ce désir de lumière, de reconnaissance, sur lequel elle s'est construite, est resté inassouvi. Et au moment où une deuxième chance peut-être se présente, elle l'a saisie, et elle l'a saisie à bras-le-corps.
Si vous me permettez, je voulais aussi faire un parallèle sur l'instinct maternel. Je trouve... Peut-être je me trompe, mais que chez Clara, à un moment donné, il éclore quand même au travers de cette histoire, même si, voilà, elle n'est pas d'enfant. Et côté Mélanie, je trouve que peut-être elle a fait une sorte, sans se rendre compte, de se désolidariser de cet instant maternel. Est-ce que vous trouvez cette remarque juste ?
Bah après, c'est votre lecture et comme toujours, elle vous appartient.
C'est vrai.
Et c'est ça, c'est la magie des livres. Mais oui, je vois ce que vous voulez dire et il y a quelque chose de juste. Pour moi, Mélanie, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des enfants un peu par conformité sociale parce qu'au fond, pour elle, la vie d'une femme, c'est le mariage, c'est la maternité, c'est comme ça qu'une femme doit se réaliser. Et puis, après la naissance de son fils qui est l'aîné, elle se rend compte que certes ça lui procure beaucoup de joie, mais ça n'a pas tout résolu et qu'elle reste dans cette frustration que j'évoquais à l'instant. Clara, au contraire, qui a décidé de ne pas avoir d'enfant pour des raisons qui sont très cérébrales, très intellectualisées, qu'elle serait sans doute capable d'expliquer à quelqu'un qui lui poserait la question, pour des raisons politiques presque, j'ai envie de vous dire, idéologiques, finalement découvre, votre remarque est tout à fait juste, en regardant ces vidéos et en imaginant finalement ce que peut être la vie de ses enfants, découvre en tout cas un élan de maternant, probablement de protection. Elle ne peut pas rester indifférente à ces images et au fond, elle a, peut-être aussi parce qu'elle est flic, elle a envie de protéger ses enfants.
Un mot sur les enfants, si vous me permettez, justement. J'ai l'impression que Mélanie est un grand enfant elle-même qui ne cesse d'offrir des cadeaux et qui n'est jamais satisfaite.
Hein? Oui, c'est vrai. Et Clara aussi, d'ailleurs. Clara aussi, c'est un personnage qui a gardé un pied dans l'enfance à sa manière. Elle est toute petite, elle ne grandit pas. C'est...
En tout cas, Clara, oui, c'est ça. Elle ne grandit pas d'un point de vue physique. Vous l'avez créée de cette manière-là. Les enfants, en revanche, ils n'ont pas du tout le même sort, on va dire, face à cette expérience. Et celles qui pourrait s'imaginer qui sortirait le plus abîmée de cette histoire, finalement, c'est celle qui va trouver une force naturelle. C'est des choix aussi, là, j'aimerais bien rentrer un peu dans la confidence de votre pensée, quoi.
C'est souvent le cas, je trouve. Moi, je suis maman moi-même. Et peut-être que c'est tout à fait inconscient, d'ailleurs, en écrivant ce texte, parce que récemment, moi, je me suis rendu compte que finalement, je me suis beaucoup inquiétée pour un de mes enfants, beaucoup plus que pour l'autre, et qu'au bout du compte, peut-être que je m'étais inquiétée trop fortement, alors que là où je pensais que l'autre était extrêmement solide, peut-être j'étais passée à côté d'une autre fragilité. Et parce que bien sûr que quand on est parent, on a envie de soutenir ses enfants, d'être là, de les protéger, de les aider dans toutes ces étapes qu'ils doivent accomplir. Affronter parfois d'ailleurs. Et donc, peut-être que c'est venu de là. Oui, là, en effet, quand on retrouve ensuite ces personnages plus tard, peut-être que le plus fragile de ces enfants n'est pas celui ou celle qu'on imagine.
Thank you.
J'ai lu une interview de vous dans laquelle vous étiez en train d'expliquer que pour faire ce livre, vous êtes documenté, comme vous avez expliqué au début de notre entretien, donc regarder des vidéos, etc. Moi, je n'ai jamais regardé ces vidéos-là. Vous nous avez parlé d'une vidéo dans laquelle les gens jettent des cheese, de fromage dans le visage des bébés. C'est vrai, ça?
Oui, tout à fait. Bah, là, pour le coup, vous pouvez taper Cheese Challenge sur Internet, vous en verrez un certain nombre. C'est un concours international, donc... le Cheese Challenge, il s'agit donc de poster une vidéo où vous jetez une tranche de fromage fondu type le fromage qu'on met dans les croque-monsieur ou dans les hamburgers, je ne citerai pas de marque, mais voilà, des petites tranchettes de fromage qui collent comme ça, au visage de son enfant, et de filmer sa réaction, laquelle va être évidemment tantôt perplexe, amusée, effarée, terrorisée dans certains cas, parce que certains bébés évidemment sont paniqués. Voilà, et de la poster ensuite sur Facebook. Et ce Cheese Challenge rencontre un succès assez phénoménal, puisqu'il trouve des participants partout dans le monde.
Et d'autres vidéos. Alors,
vous avez. Bizarre.
C'est complètement hallucinant. Vous avez regardé pas mal de vidéos. Qu'est-ce que ça vous a donné, cette découverte finalement? Maintenant à froid, hein, parce que le livre est écrit, etc. Est-ce que ça a changé un peu votre sentiment? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Ah, je vous avoue que ça m'a, pour certaines d'entre elles, oui, il y avait quelque chose d'assez déprimant quand même. J'en ai regardé énormément, effectivement, des vidéos françaises, étrangères, etc. Parce que je voulais m'immerger pleinement dans cet univers pour pouvoir le décrire, le raconter, voir jusqu'où ça pouvait aller. Et par moments, je me dis que je n'ai pas pris tout à fait la mesure de ce qu'on peut voir, parce que j'en ai déjà vu pas mal. Mais, voilà, très souvent le soir, je vous avoue que j'avais un petit sentiment de tristesse, de déprime, et il m'a fallu quelques temps pour comprendre qu'en fait c'était vraiment le visionnage et la répétition de ces vidéos qui me donnait quand même une vision de l'humanité assez déprimante. Heureusement, et voilà, il n'y a pas que ça, bien sûr, ni sur YouTube, ni sur Instagram, etc. Il y a aussi des contenus qui sont tout à fait enthousiasmants, réjouissants, et créatifs, intéressants, passionnants. Mais il y a ça aussi. Et il y a aussi beaucoup de contenus que je trouve profondément déprimants. Alors j'ai dû les regarder entre guillemets parce que ça m'importait d'être au plus près malgré tout de la réalité, mais là maintenant non, je vous avoue que je ne continue pas à les regarder, mais ce qui est, j'ai été à plusieurs moments très surprise. Je l'ai dit parfois dans des interviews, ce qui est la phrase qui me revenait tout le temps, c'est, je me disais, il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire qu'en fait, moi je ne savais pas que ça existait, mais des gens savent très bien que ces chaînes familiales existent, mais pour la plupart, ils n'ont pas passé ce temps à les regarder. Et je les comprends bien, parce que c'est effectivement assez déprimant. Donc, passer du temps, il faut passer du temps à regarder ça pour comprendre, encore une fois, ce que ça signifie, ce que ça révèle de l'époque, ce que ça, les valeurs qui sont véhiculées, etc. Ça demande de passer du temps à les regarder. Or, les adultes ne passent pas de temps à regarder ça. Mais les enfants, oui, ils passent des heures à regarder ça. Et ils sont conditionnés par ça.
Donc, quelque part, vous êtes en train de faire un peu le portrait de la société dans la vie, enfin, une partie en tout cas, une photo de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Vous avez terminé ce livre plutôt sur une note plus que moins, on va dire. Là, vous êtes à Rennes pour rencontrer des gens qui ont probablement également lu ce livre, qui est un énorme succès, d'ores et déjà. Chaque lecteur, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, est un lecteur qui interprète vos livres de manière différente.
Oui, c'est souvent le cas, ça me frappe toujours quand je rencontre les lecteurs, de voir qu'un même texte peut susciter des réactions diamétralement et des interprétations diamétralement opposées. Je trouve ça assez fascinant d'ailleurs et plutôt réjouissant. On lit bien sûr avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent, avec sa propre histoire, et de fait les mêmes mots vont être interprétés différemment. Une fin positive peut être interprétée de manière négative et à l'inverse. C'est très étonnant, et ça m'a frappé je dois dire assez vite, parce que dès le début de ma rencontre avec le public, ce qui s'est fait essentiellement avec un roman qui s'appelle Noé et moi, qui est sorti maintenant il y a bien longtemps, et j'avais été très frappée de voir que ce livre, qui a été mon premier succès public, rencontrais des interprétations totalement différentes et que des gens me remerciaient, me félicitaient pour son côté optimiste, bienveillant, humain, etc. Et d'autres me félicitaient, ou pas d'ailleurs, pour son côté très noir, très sombre, le trouvaient très pessimiste.
Vous êtes aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, depuis toujours Delphine de Vigo, mais il y a eu un moment, lorsque vous avez commencé à écrire, vous aviez fait ça au travers d'un pseudonyme. Est-ce qu'il y a une raison que vous pouvez partager avec nous pour ça ?
Il y a des raisons que je peux partager, d'autres que je ne peux pas partager, mais celles que je peux partager, c'est que à l'époque, c'était mon premier roman, qui était un livre très autobiographique, qui s'appelle Jour sans fin, qui raconte la guérison d'une jeune femme anorexique. Et je travaillais en entreprise à ce moment-là, personne dans mon entourage professionnel ne savait que quelque chose comme ça m'était arrivé. Et c'était une manière de mettre un peu une distance et de me dire, je ne peux même pas dire que je me projetais comme écrivain à ce moment-là, parce que je ne savais pas, même si j'en avais l'envie, si ce livre serait le premier et le dernier ou s'il y en aurait d'autres après. Mais en tout cas, j'avais éprouvé le besoin de le décaler peut-être un peu par rapport à mon activité professionnelle et notamment en l'écrivant sous un pseudonyme. Ce qui ne m'a pas empêché finalement comme le texte avait quand même eu des échos médiatiques et que je ne voulais pas non plus me cacher, au bout du compte, tout le monde a très vite su dans mon entreprise et un peu autour que c'était moi qui avais écrit ce roman.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour vous qui va faire que votre vie professionnelle sera toujours aussi pétillante, enthousiaste ?
Bon, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses encore que j'ai envie de faire. La réalisation, oui, ça m'est arrivé une fois. J'ai tourné un film qui figure sans doute, qui serait digne de figurer dans une anthologie des navets du cinéma français.
mais c'est une sacrée expérience.
Oui, c'était une expérience formidable. Et puis, je m'amuse souvent en disant que sans doute, dans 10 ans, il deviendra culte, comme certains films un peu bizarres peuvent le devenir. Mais je ne reviendrai pas du tout à la réalisation parce que c'est clairement pas mon moyen d'expression et que je pense n'avoir vraiment aucun talent pour ça. En revanche,
qu'est-ce que vous aviez poussé à le faire à un moment donné ?
C'était un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'au départ, on était venu me chercher pour écrire un scénario, ce que j'ai fait. Et puis, ça m'a beaucoup amusée parce que c'était un scénario de comédie et que c'est un aspect qui est moins connu de mon travail, même s'il apparaît dans certains de mes livres. Et qu'ensuite, de fil en aiguille, en France, c'est quand même plutôt les auteurs qui tournent même leurs films. Il n'y a pas cette politique un peu de faiseur, comme on dit aux États-Unis, où quelqu'un va s'emparer de votre travail et le tourner. Donc on n'a pas trouvé de réalisateur pour tourner ce scénario. J'ai proposé de le faire moi-même et j'étais des producteurs suffisamment fous pour me dire OK.
C'est génial.
Et c'était une formidable aventure. J'ai appris énormément. Je regrette pas une seconde d'avoir fait ce film. Je continue à collaborer à des scénarios. Ça m'intéresse beaucoup. Quand l'occasion se présente sur certains projets, ça m'intéresse. Et puis, mais je vais vous dire, mon souhait le plus cher, et c'est de continuer à écrire, en fait, de trouver, de continuer à raconter des choses à travers la littérature, parce que c'est ce que j'aime le plus faire, et que c'est à la fois le plus fragile et le plus difficile, et en même temps le plus excitant, pour moi, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ? On a bien compris que le premier livre, c'était une histoire qui... intime, mais il faut qu'on recommence, en fait. Ce métier, il faut l'apprivoiser. Vous êtes en train de le faire au la main, donc...
Je continue de l'apprivoiser, parce qu'au fond, c'est jamais, encore une fois, le chemin, il est jamais complètement parcouru, et que, pour moi, chaque livre est une sorte de recommencement, dans le sens où j'aime bien, en plus, sortir de mes propres sentiers battus, j'ai pas envie d'écrire 2 fois le même livre, donc je m'attache à la fois sur le plan formel, et même des histoires que je raconte, à renouveler quelque chose dans mon travail qui pourrait dans une forme d'inconfort, de mise en danger, c'est peut-être le mot est fort, mais qui m'intéresse, enfin qui me... ce qui m'a poussé à écrire, ce serait trop long à expliquer, il faudrait consacrer 1 heure de votre émission, et encore je suis pas sûre que j'en ferai le tour, plein de choses à la fois que j'ai pu identifier avec le temps et en même temps sans doute qui restent très mystérieuses.
Bon, notre interview va bientôt toucher à sa fin, je vais vous libérer quand même parce que vous avez une rencontre. Voilà, c'est le mot de la fin, cette inspiration pour écrire. Vous étiez en train de dire que vous aimez bien vous renouveler à chaque fois, etc. L'inspiration, elle peut venir un peu de tout et n'importe quoi. C'est quelque chose qui peut surgir à un moment complètement inattendu pour vous, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et même souvent, je me rends compte que l'idée de mes livres, les idées, elles apparaissent comme ça tout d'un coup. Elles s'imposent à des moments inattendus. Là, par exemple, pour Les Enfants sont rois, c'est vraiment en regardant un reportage, en tombant d'ailleurs tout à fait par hasard sur un reportage à la télévision qui mettait en scène, qui montrait ses enfants, j'ai tout de suite eu l'idée de l'écriture. C'est-à-dire que tout de suite, ma réaction presque épidermique à quelque chose qui me heurtait, sans aucun doute, ça a été d'écrire, ça a été de prendre un carnet que j'avais à portée de main et de noter tout de suite quelque chose. Et c'est souvent ça, en fait. Donc l'inspiration, l'écriture, c'est surtout du travail, mais le déclic, peut-être l'étincelle, elle peut venir effectivement n'importe quand. Et maintenant, je me rends bien compte, depuis 20 ans que j'écris, que j'ai la chance de publier, que à peu près tout ce que je vis est potentiellement un sujet de roman, tout ce que je vis et tout ce que j'observe. Moi, je me définis plutôt comme un auteur de fiction, mais précisément, tout ce à quoi j'assiste pourrait potentiellement être le point de départ d'un livre.
Et le nom du livre, Les enfants sont rois, moi, je pense que vous êtes presque en train de faire un clin d'œil en disant « Attention, nos enfants sont rois ».
Oui, là, c'est plutôt une antiphrase, parce que finalement, c'est la manière dont Mélanie se défend. Elle dit, mais les enfants sont rois, ce qui sous-entend que les enfants font ce qu'ils veulent, qu'ils font exactement ce qu'ils désirent, et qu'elle n'est là que pour réaliser leurs désirs et leurs rêves, là où c'est à peu près tout l'inverse qui se produit. Donc voilà, c'est une antiphrase.
Eh bien, merci infiniment, Delphine, merci de cet entretien. Je suis vraiment très heureuse. Et bonne rencontre.
Eh bien, merci et à une prochaine fois.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B. L'émission est également disponible en podcast sur le site de canalb.fr. Bon dimanche. Allez, bisous. Bye.